Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps d'ouvrir un livre était devenu un acte de résistance? Ce podcast, c'est celui des passionnés de lecture, sous toutes ses formes, sans préjugés. Dans cet épisode, mon invitée est la romancière française Tatiana de Ronay.
La plus belle des récompenses, c'est quand j'ai conseillé un livre, pas forcément les miens, quand j'ai conseillé un livre à quelqu'un qui ne lit pas et je leur dis « écoutez, au moins lisez ça ou au moins amusez-vous avec ça », après peut-être un petit message, un petit coup de fil, « ah ouais, vous avez raison, je vais continuer, j'ai bien aimé, ça m'a plu, je vais continuer ».
Depuis, elle s'appelait Sarah en 2006, Tatiana de Ronay est l'une des romancières préférées des Français. Ses livres sont traduits partout dans le monde et régulièrement adaptés au cinéma et à la télévision. Une belle revanche sur les longues années où elle a écrit sans rencontrer les faveurs du public. On la retrouve aujourd'hui en poche avec la publication chez Pocket de L'Envers du décor et autres nouvelles et en grand format chez Robert Laffont avec un tout nouveau roman intitulé Les fleurs de l'ombre. Hasard ou pas, son héroïne est une romancière qui répond au pseudonyme de Clarissa Katzeff. Après s'être séparée de son compagnon, elle s'installe dans un appartement ultra moderne à l'invitation d'une mystérieuse agence baptisée Casa. Nous sommes, faut-il le préciser, dans un futur proche où le quotidien de Clarissa va être régi par un assistant virtuel qui peu à peu s'immiscera dans son intimité. Pour Tatiana de Ronay, c'est l'occasion de dresser un nouveau portrait de femme, complexe et subtil, dans une atmosphère presque aussi angoissante que l'épidémie de coronavirus dont tout le monde parle le jour de notre rencontre. Bonjour Tatiana de Ronay.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien.
Je suis très triste, j'ai pas pu vous serrer la main.
Oui, c'est vrai que c'est des nouveaux réflexes qu'on doit prendre et c'est pas drôle, hein. On peut pas faire la bise, on peut pas serrer la main.
Vous pensez que ça va durer ?
Moi j'ai peur que ça dure et puis j'ai surtout peur qu'au bout de X temps, je sais pas combien de temps va durer ce sacré virus, mais j'ai peur que les gens perdent l'habitude de se serrer la main ou se faire la bise. Et donc ça m'attriste et ça m'inquiète en fait.
C'est romanesque comme situation, ça ressemble à un film d'anticipation, non ?
Oui, alors moi j'ai des gants, j'ai des très jolis gants noirs, très fins, qui me permettent aussi d'utiliser mon smartphone. Et donc je vais essayer de m'en sortir avec mes gants.
Vous sentez que vous pourriez puiser l'inspiration d'un prochain roman dans les comportements actuels ?
Oui, parce que vous savez, même le mot « confinement », si on est tous confinés, d'ailleurs ça me fascine ce mot, qu'est-ce qu'on va faire seul chez nous? Il y a plusieurs possibilités. On va peut-être beaucoup lire, ce qui m'arrange. On va peut-être aussi regarder des séries, ce qui m'arrange aussi, parce que j'en écris.
Oui.
Et puis, on va être obligé quand même de communiquer les uns avec les autres, pas forcément avec nos écrans. Se voir, comme on dit en anglais, « in real life ».
C'est pas mal aussi. Hein.
Donc peut-être que ça va donner plein d'idées aux romanciers confinés.
Alors pendant la période de confinement qui s'ouvre, on va pouvoir lire Les Fleurs de l'Ombre, votre nouveau roman, dont l'héroïne est elle-même un peu confinée dans un appartement qui lui sert de refuge. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, cette romancière ?
Alors Clarissa Katzeff, d'abord c'est un pseudo, je ne connais pas son vrai nom. Elle ne veut pas qu'on le sache. Elle a choisi Clarissa en fonction de Mrs. Dalloway et de Virginia Woolf, qu'elle aime plus que tout. Et elle a choisi Katzeff, puisque c'est le vrai patronyme de Romain Gary. Donc Clarissa Katzeff, écrivaine bilingue, senior, hein, d'un certain âge, on va dire, fait une découverte assez troublante concernant son mari. Et donc, au début de mon roman, elle décide de trouver un nouvel appartement. Et mes lecteurs le savent, les nouveaux appartements, c'est toujours un peu la galère chez moi. L'obsédé des lieux. Et donc, elle va trouver un appartement dans une résidence très moderne, ultra connectée. La résidence s'appelle Casa. Et elle accueille des artistes. Vous pouvez seulement rentrer là si vous êtes peintre, sculpteur, écrivain, poète, etc. Et à son grand étonnement, elle est prise. Donc, elle emménage peut-être un peu trop hâtivement dans cet endroit magnifique, au dernier étage, dans un quartier très récent de Paris. Et elle va se sentir très vite mal à l'aise parce qu'il y a des caméras un peu partout. Elle ne sait pas d'ailleurs très bien pourquoi et dans quel but. Et donc, moi, ce qui m'a amusée ici, c'était de jouer avec sa paranoïa. Cette écrivaine qui a été géomètre dans une autre vie, donc un peu une obsédée des lieux, et qui se retrouve prisonnière, on parlait de confinement tout à l'heure, un peu coincée dans cet endroit qui semble l'espionner en permanence. Au début, elle pense qu'elle va s'y faire. Et puis petit à petit, parce qu'elle est fragile, parce qu'elle est à fleur de peau, elle va commencer à se poser beaucoup trop de questions. Et moi, je surfe sur sa paranoïa.
Elle est d'autant plus, elle se sent d'autant plus surveillée qu'elle bénéficie, alors je ne sais pas si bénéficier c'est le bon terme, mais d'une intelligence artificielle. Il y a un assistant personnel qui répond à toutes ses demandes, qui lui pose beaucoup de questions très intimes hein, quand elle arrive pour essayer de cerner sa personnalité. Vous avez, vous, ce genre d'intelligence artificielle chez vous, Tatiana ?
Alors, vous savez, mon roman se passe dans un futur très proche, oui. Une quinzaine d'années, on va dire. Et pour l'instant, nos assistants virtuels, comme Alexa ou Google, on les a tous essayés avec plus ou moins de succès. D'ailleurs, rappelez-vous, il y avait eu tout ce scandale où l'un des deux était espionné, où tantôt les gens recevaient des pubs par rapport à des mots qu'ils avaient pu dire devant leur assistant virtuel. Donc en fait, je les ai testés comme tout le monde. Et je les ai trouvés un peu rudimentaires. Bon, c'est assez pratique pour connaître la météo qu'il fait, l'âge d'une actrice qui dit qu'elle est beaucoup plus jeune ou qui a écrit tel livre ou une recette de cuisine. Mais là, dans mon livre, c'est, comme on dit en anglais, « one step beyond », c'est-à-dire que j'ai poussé ça. Je me suis beaucoup inspirée de cette série qui s'appelle « Black Mirror ».
Ouais, c'est super.
Hein. Ouais. Où on sait très bien que ces assistants virtuels, ils vont déjà pouvoir vous saluer quand vous arrivez chez vous, vous dire votre prénom, ils savent que vous aimez votre café à telle heure, à telle température, ils mettent vos emails sur les murs, etc. Et donc, je me suis un peu amusée avec le paramétrage de cet assistant, parce qu'en fait, Clarissa va devoir se plier à un assez long paramétrage pour que justement que Mrs. Dalloway, tel est le nom de cette assistante, puisse cerner mieux sa personnalité. Et c'est là où moi je me suis posé beaucoup de questions. Au fond, quand on fait ce genre de paramétrage, on donne beaucoup d'informations sur soi-même.
On croit que c'est anodin, on croit que c'est
certainement c'est... beaucoup trop d'ailleurs. Oui, oui. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de savoir, connaître vos traumatismes? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de savoir ce qui vous est arrivé dans le passé? Et c'est là où Clarissa va commencer justement à avoir ses premiers doutes. Qu'est-ce que c'est que cet organisme CASA? Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi ils ont mis tous ces artistes dans le même immeuble? Et donc cette assistante virtuelle, qui a un accent britannique, et d'ailleurs dans la version audio du livre, parce que j'ai enregistré mon livre en audio pour la première fois, ça m'a beaucoup amusée de faire parler Mrs. Dalloway avec un accent anglais.
Elle a quelle voix alors, Mrs. Dalloway?
Elle est comme ça, elle vous dirait, par exemple, elle dirait « Bonjour Clarissa, je suis très contente de vous accueillir. Il va faire beau dehors. Le drone des courses va passer dans quelques instants. » Je me suis beaucoup amusée à faire ça.
C'est Christine Scott Thomas qui devrait faire la voix, non? Vous ne pensez pas?
Non, parce que I can take British accents as well, because my mom is English. Mais du coup, le paramétrage m'a beaucoup intriguée. Justement, on pense que on donne ces informations comme ça, de façon gratuite, mais on ne sait pas qui est derrière, et surtout on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire avec ces informations. Donc cette assistante virtuelle, ça se passe bien au début, elle est très pratique, elle commande des choses, elle s'occupe de la sécurité, etc. Et puis elle va empiéter lourdement sur l'intimité de Clarissa, et d'ailleurs Clarissa ne sait pas à un moment ou un autre si c'est Mrs. Dalloway qui lui projette pendant la nuit sur le plafond des images, qui lui fait entendre des voix, qui la trouble. Donc, et puis il y a cette scène épique, où je me suis éclatée, où Clarissa perd son sang-froid et insulte Mrs. Dalloway. Et Mrs. Dalloway répond « Je ne comprends pas, Clarissa. Pouvez-vous reformuler ?»
C'est bien. Moi, j'appelle ça de la science-fiction réaliste, on va dire, ou très. C'est le futur proche. C'est effectivement ce qu'on peut voir dans Black Mirror que vous avez cité. Ce type d'histoire, de littérature, ça fait partie de votre éducation, de des livres que vous avez aimés quand vous étiez enfant, adolescente ou pas ?
Alors d'abord, moi je ne considère pas du tout mon livre comme étant de la science-fiction, ouais, ni un roman d'anticipation, pour vous dire à tel point je suis étrangère. Je n'ai pas du tout lu cette littérature quand j'étais jeune, mais il y a eu un déclic pour moi. Il y a 30 ans, j'avais lu La Servante écarlate, quand ouais, il est sorti. Et puis, entre-temps, de Margaret Atwood. Entre-temps, c'est devenu cette série incroyable qu'on a tous vu, enfin presque tous vu.
Avec Elisabeth Moss, oui.
Exactement. Et puis il y a eu Black Mirror. Et comme j'ai commencé à écrire des séries il y a peut-être 3 ou 4 ans, à écrire avec d'autres co-scénaristes, à explorer toutes sortes de sujets, je me suis rendu compte que le futur m'intéressait vraiment. Et j'ai la chance aussi d'avoir un père, entre guillemets, futurologue.
Oui, tout à fait.
Le grand scientifique, Joël de René. Oui. D'ailleurs, le livre lui est dédié. Et en fait, ce livre est né à partir des conversations que j'ai pu avoir avec lui. Parce que la science-fiction, je m'en sens très très loin. Les romans d'anticipation, je n'en ai pas lu. Et moi, ce qui m'intéressait ici, c'était de mettre en scène l'intimité d'une femme. Pas du tout faire un catalogue des techs qui vont changer nos vies, de pourquoi la big data fait peur, etc. Moi, ce qui m'intéressait ici, c'était de montrer cette femme aux prises avec ces nouvelles technologies. Et même si c'est dans un futur très proche, ça nous arrive déjà quand même d'être fliqués par nos téléphones, d'avoir des images qui fuitent sur nous. Regardez récemment ce qui s'est passé en politique, d'avoir cette menace aussi de choses qui sont divulguées, de l'importance des réseaux sociaux, de la puissance des images qui peuvent déferler sur nos téléphones. Donc, encore une fois, j'ai simplement légèrement exagéré ce qui existe aujourd'hui, pour en faire, j'espère, un roman dans lequel mes lecteurs vont pouvoir se reconnaître et pas se dire, justement, « Ah, c'est de la science-fiction, c'est très loin de nous, on ne comprend pas, on a peur. » C'est l'intime qui m'intéresse ici. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence folle.
Allez-y, je suis prêt.
Le titre original de ce livre, que j'ai donc écrit dans les deux langues, hein, puisque je l'ai écrit en même temps en anglais et en français, c'était « Intimate Places ». En français, les lieux intimes.
C'est bien.
Mais non, je vais vous dire pourquoi. Et mes éditeurs m'ont dit, Tatiana, ça marche pas, ça marche bien en anglais. Intimate places, parce que ça fait penser aussi aux lieux sur le corps, puisqu'il y a l'histoire un peu douloureuse qu'elle va vivre avec son mari. On va peut-être pas trop en dire, mais c'est lié aussi au futur. Mais beaucoup de gens m'ont dit « lieu intime, ça fait penser à des toilettes ».
Oui, c'est possible. En français, ouais.
Ouais. Et donc, du coup, c'est Virginia Woolf qui m'a sauvée. Puisque comme elle plane sur ce livre, comme Romain Gary, il y a des citations dont je me sers en exergue de chacun des chapitres.
Des chapitres, ouais.
Et les fleurs de l'ombre, en fait, selon Virginia Woolf, c'est notre paranoïa. C'est tous ces moments de doute, de peur, de quand on se dit on comprend pas ce qui se passe, etc. Et donc les fleurs de l'ombre, donc je remercie Virginia Woolf qui a quand même trouvé, et Flowers of Darkness, c'est tellement beau aussi en anglais. Donc c'est vraiment ces moments où on doute, et en particulier ici, c'est les moments où on doute face aux nouvelles technologies, à cette invasion permanente de nos vies privées. Comment on va pouvoir arrêter ça? On ne peut pas. Ou alors comment on va apprendre à vivre avec? On le doit.
C'est ça. Il y a un aspect que vous avez évoqué qui me fascine d'un point de vue pratique, c'est le fait d'écrire à la fois en français et en anglais. Alors expliquez-moi un petit peu, vous faites un chapitre en français, un chapitre en anglais, vous écrivez tout en français et tout en anglais après, vous traduisez votre français. Enfin, je n'arrive pas bien à comprendre le...
So, I'm going to try and explain this to you very simply. Alors, en fait, jusqu'ici, soit j'ai écrit mes livres en anglais et ils ont été ensuite traduits en français, pas par moi, parce qu'on m'a toujours dit que je ne pouvais pas me traduire moi-même.
Bon. Très bien.
Et j'ai accepté ça parce que je pensais que c'était vrai. Ou alors j'écrivais en français et ils étaient ensuite traduits en anglais. J'ai toujours eu deux langues d'écriture. J'ai ce cerveau hybride, comme mon héroïne. Et donc j'ai deux langues maternelles. Et en fait, c'est toujours un choix douloureux pour moi, au début, de dire « ce livre-là va être en anglais ». Celui-là va être en français. Et là, pour la première fois, Je n'ai pas eu ce choix puisque j'ai souhaité écrire ce texte dans les deux langues en même temps. Alors comment ? La page ouverte sur mon ordinateur, une page en anglais, une page en français.
D'accord.
Donc c'est même pas de la traduction, c'est un texte qui est venu en même temps dans les deux langues, on va dire une auto-adaptation en permanence. C'est-à-dire que je pouvais commencer le texte dans une langue, je faisais pas attention à la langue, j'écrivais peut-être un paragraphe ou deux ou une page ou deux, et ensuite je réadapte dans l'autre langue, mais ça me permet en permanence d'adapter les deux. C'est-à-dire que le texte d'origine est sans cesse modelé pour que finalement ça revienne, ça s'entende comme une fréquence que moi j'entends moi. Et donc du coup, imaginez si j'étais très contente d'une phrase en anglais et qu'elle sonne moins bien en français.
Ouais, vous réécriviez la phrase autrement.
Je pouvais rafistoler les deux pour que ça corresponde parfaitement à ce que je voulais. Donc ça a été un travail de fou. Je vous cache pas que je sais pas comment j'ai fait en fait.
Je ne connais pas tous les écrivains, mais ça m'a l'air d'être un procédé un peu, un processus unique, non ?
Il y a certains écrivains comme je crois Nancy Houston et même d'ailleurs Romain Gary, Samuel Beckett, Nabokov qui ont écrit dans deux langues, qui se sont auto-adaptés. Mais il me semble
pas simultanément comme ça.
Oui, ouais. Et c'est ça qui m'a intéressé justement, et j'ai eu l'impression que ça. D'ailleurs, Clarissa le décrit à un moment dans le roman puisqu'elle écrit comme ça aussi. Et j'ai eu l'impression que ça a décuplé mon imaginaire et que ça m'a permis de partir dans des zones un peu incroyables que je n'avais jamais explorées jusqu'ici.
Et votre imaginaire est aussi fertile dans une langue que dans l'autre ?
Je dirais presque qu'il est même plus fertile en anglais.
Oui.
Parce que j'ai commencé à écrire et à lire en anglais puisque je vivais aux États-Unis quand j'étais petite fille. Mon père enseignait au MIT à Boston. Donc j'ai commencé à lire et à écrire là-bas. Et je suis tombée dans la littérature vraiment plus en anglais.
À travers la langue anglaise.
Parce que je commençais à lire Edgar Poe, Daphné du Maurier. Et donc, en fait, j'ai l'impression que cette espèce de... On va dire, pas charme, mais ce plaisir que j'avais à écrire et lire en anglais, le fait de faire mêler ces deux langues, de les rendre communes, même si elles sont très différentes... Ça a été un défi pour moi. Alors, du coup, ça a un peu mélangé les choses dans ma tête, parce que jusqu'ici, quand je parle anglais à français ou anglais à quelqu'un, je ne laisse pas les langues se mélanger du tout. Et d'ailleurs, on n'entend pas d'accent quand je parle ni en anglais ni en français.
Oui.
Mais depuis que j'ai écrit ce livre dans les deux langues, les choses se mélangent dans ma tête. Et parfois, là, vous voyez, je vous parle...
un petit peu schizo, comme le personnage.
Et j'ai l'anglais qui arrive en courant en disant « We're free, you let us free, let's speak English now ». Et pareil, quand je parle anglais, le français arrive. Donc, je ne sais pas comment je vais écrire mon prochain livre, mais en tout cas, je sais une chose, et pardon à tous mes traducteurs, anglais-français, français-anglais, je ne veux plus être traduite.
Ah oui, c'est comme ça. Ça va faire quelques personnes... Ils trouveront du travail avec d'autres, mais c'est pas...
Oui,
c'est comme
mais
ça.
Je ne veux plus. J'ai compris, en fait... que c'est une auto-adaptation permanente des deux textes. Il n'y a pas un texte d'origine. Voilà. Est-ce que ça vous parle ?
Oui, je comprends. Non, mais oui, je comprends que c'est un processus assez très personnel et nouveau que vous ne pouvez pas faire autrement. Est-ce que, Tatiana, vous mettez en colère et vous jurez en anglais plutôt qu'en français ?
Alors, très bonne question. On m'a beaucoup demandé si je rêvais en anglais, si je jurais en anglais, en français. Et en fait, je me rends compte que j'ai deux... jurons préférés. Alors, je ne sais pas si on peut les dire.
Oh, allez-y, c'est bon. Un podcast. Alors,
j'adore putain. Ah, oh, putain, alors ça, on peut tout mettre là-dedans. Mais ensuite, il y a un juron anglais qui est suprême, qui est le plus extraordinaire. Et là aussi, vous pouvez tout mettre dedans, c'est what the fuck. Voilà, WTF. On peut tout mettre là-dedans. On peut être triste, on peut être énervé, on peut être... furieux, on peut être agacé, ça dépend comment on le dit. Donc ces deux-là, je ne peux pas m'en séparer. Parfois, je laisse échapper un juron et je me rends compte, je fais attention à la langue, je dis tiens, c'est drôle, il est venu en français, ah tiens, il est venu en anglais, pourquoi ? Je ne sais pas. En fait, les cerveaux hybrides, c'est un peu comme des laboratoires. On ne sait pas très bien quelle langue va sortir en premier. Je sais que dans l'urgence absolue, c'est parfois l'anglais qui vient. Je ne sais pas pourquoi.
d'une résurgence de votre enfance, de votre éducation.
Mais pourtant, j'ai eu deux langues. Oui. J'ai
à la maison, vous y avez les deux.
Oui. Donc, c'est très étrange. Très, très étrange. Par exemple, pour vous donner, pour vous montrer la complication de ma vie, je parle anglais à ma mère, français à mon père, anglais à mes frères et sœurs, oui. Français à mon mari, français à ma fille, anglais à mon fils.
Ah, c'est très bizarre.
Very strange, indeed.
Very strange.
Yes.
Alors, je pense qu'on vous, vous a souvent posé la question, mais je vous ai peut-être une réponse différente aujourd'hui. Vous écrivez depuis toujours. Est-ce que ça veut dire que vous avez toujours voulu faire ce métier?
Oui. C'est vrai.
Sincèrement
ouais. Sincèrement, à l'âge de 10 ans, j'avais un tel plaisir. C'est très lié à la lecture. La petite fille que j'étais était ce qu'on appelle un bookworm, un ver de livre. Donc, la lecture a appelé l'écriture. Et j'ai eu de la chance que mes parents, ma famille, me prennent très, très au sérieux quand je leur disais, du haut de mes 10 ans, je voudrais être écrivain. Ah bon, ok, très bien, parfait. Fais quand même, passe ton bac, fais des études. Après, c'est vrai que ça a été laborieux parce que même si j'ai publié mon premier livre à l'âge de 30 ans, ça n'a pas du tout été un succès. J'ai donc dû écrire autrement. J'écrivais déjà des séries. Je suis devenue journaliste, oui. Pigiste. Je faisais des traductions. Fallait bien que je vive de ma plume. Et le succès a mis longtemps à venir. Puisqu'il est venu avec Elle s'appelait Sarah, j'avais déjà 45 ans. Donc vous voyez, il y a eu quand même 15 années de galère, on peut le dire. Mais je n'ai jamais oublié ces années d'insuccès. Le fait d'avoir publié 7 livres avant d'avoir un livre qui marche. Et ma famille a toujours été très patiente et m'a toujours soutenue. Mais je sais aussi que le succès d'Elle s'appelait Sarah en 2007 a été un peu un tsunami pour mes proches. Parce qu'ils s'étaient habitués, je crois, à cette écrivaine qui écrivait des livres qui étaient confidentiels, on va dire. Et puis tout d'un coup, paf, il y a eu ce livre-là qui a changé beaucoup de choses.
Vous, ça vous a apaisé, le succès? Ça vous a donné des ailes? Ça vous a donné encore plus d'inspiration?
Pour vous dire la vérité, le refus d'Elle s'appelait Sarah par une trentaine d'éditeurs a été très, très douloureux pour moi.
Une trentaine d'éditeurs, quand même, oui.
Ça, c'était en 2002, entre 2002 et 2004. Et donc, je me suis dit, peut-être qu'il faut que je me rende compte que ce que j'écris n'intéresse personne. Peut-être qu'il faut que je me rabatte sur les séries, sur les piges... Et vraiment, j'étais, comme on dit en anglais, rock bottom, c'est-à-dire je touchais le fond.
Au fond du trou.
Et j'avais annoncé à ma famille que j'allais arrêter d'écrire. Ils m'ont tous regardé avec des yeux ronds. Ils ont dit, Tatiana, tu peux pas dire ça, c'est pas possible, t'as écrit toute ta vie. Et puis, il y a eu ce succès, auquel je ne m'attendais absolument pas, qui reste toujours, même si ça fait 13 ans, comme un petit miracle. Beaucoup plus que 13 ans, qu'est-ce que je raconte? De 2007 à 2020, ça fait quoi?
Ah, je suis nulle. 13 ans, 13 ans.
Alors, c'est 13 ans, c'est bon.
Oui.
Et donc, en fait, j'ai gagné des lecteurs. Mais ce qui est très touchant, c'est que de temps en temps, à les dédicaces, j'ai une femme, un homme, qui me dit, vous savez, moi, je suis là depuis le début.
je vous lisais avant.
Oui, ouais. Moi, je vous lisais avant et je savais qu'un jour, vous alliez percer. Moi, je lisais le voisin, je lisais le cœur d'une autre. Et ça me touche beaucoup. Donc, oui, ça a changé des choses. Mais maintenant, on est sous une certaine pression. Hein. Maintenant, l'édition, c'est un business. Hein, et quand on commence à vendre des livres, on se rend compte qu'on est un peu comme un produit hein, sur une table. Je ne veux pas dire ça de façon un peu dévalorisante, mais on sent qu'il y a des enjeux.
Et puis, il y a de la compétition. Malheureusement, il n'y a pas plus de lecteurs qu'avant. Je sais que vous en parlez souvent. Ça vous inquiète vraiment, ça, la disparition de la
oui.
pratique de la lecture?
Je me rends compte que nos lecteurs, et j'en discute souvent avec mes amis romanciers, nos lecteurs, nos cœurs de cible, sont des femmes d'un certain âge, on va dire, dans la cinquantaine. J'ai pas l'impression que les jeunes lisent beaucoup, alors quand il y en a, c'est merveilleux. J'ai pas l'impression que le flambeau de la lecture est porté très, très haut dans la vie de tous les jours.
Dans la vie de tous les jours, vous voulez dire même dans la représentation
oui.
médiatique, le livre et même la lecture, c'est pas quelque chose qui est valorisé.
Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont mis en route et je les salue. Et je pense que les podcasts, peut-être d'ailleurs, aident les gens à lire. Moi, j'ai donc enregistré Les Fleurs de l'Ombre pour la version audio. Ça a été une très belle expérience pour moi. Je ne l'avais jamais faite. On m'a dit que les podcasts avaient le vent en poupe et que les gens aimaient écouter la voix de quelqu'un qui leur lit un livre. Donc, je me dis peut-être que c'est par ça qu'on va renouer avec la lecture, d'écouter finalement une voix qui vous raconte une histoire. Ouais. Peut-être que ça va marcher. J'espère. En tout cas, je suis inquiète. Nos livres sont aussi piratés. Il y a beaucoup de lecteurs qui me l'avouent, qui parfois ne peuvent pas acheter un livre, donc ils le piratent. Ils viennent quand même faire la queue dans les salons du livre. Ils vous font signer un petit marque-page et ils vous avouent que le livre est piraté. Ouais. Ça, c'est pas facile à entendre, parce qu'il y a tellement un travail derrière, un travail de chaîne. Tous les gens qui ont bossé sur le livre, les éditeurs, les correcteurs, les graphistes... Enfin, toute la chaîne du livre est touchée par le piratage. Donc, si vous avez piratage, désaffection de la lecture... Moi, j'ai remarqué aussi que dans les salons où on va, les gens sont capables de faire la queue pendant des heures, rien que pour vous parler. Mais vous savez avec quoi ils repartent? Devinez.
Avec votre livre? Non, pas votre livre.
Un selfie.
Un selfie? Ils préfèrent le selfie?
Oui, qu'ils mettent sur les réseaux sociaux avec tous les bons hashtags.
Ah oui.
Ils sont capables de faire la queue pendant une heure pour avoir le selfie avec vous et pas le livre.
En même temps, vous dites ça, mais les réseaux sociaux, vous y êtes présente et je pense que vous vous en servez de manière intelligente pour fédérer une communauté autour de
oui.
vous. J'ai regardé ce matin, parce que ça bouge tout le temps, vous avez 25 400 abonnés sur Instagram, vous postez des photos de vous, des extraits de livres, des petites vidéos, plein de choses. C'est quand même un univers que les écrivains ont plutôt intérêt à embrasser, non?
Vous savez, il y a 10 ans, on avait des blogs tous. Moi, j'avais des blogs lecture. J'avais un blog de livres qui s'appelait Le Figuier, Fig Tree, où je mettais des petites critiques de livres. Après, il y a eu l'avènement de MySpace qui est mort. Personne ne se souvient de MySpace, mais on allait là-dessus pour parler des livres.
Effectivement, oui.
Bon, ensuite, il y a eu Facebook qui a tout écrasé. Et puis, bien sûr, Twitter, Instagram. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de, comme d'ailleurs plein d'autres écrivains, de assez vite comprendre comment ça marche. Mais je trouve dommage tous ces écrivains qui viennent uniquement parler que de leurs livres. Alors, en période de promo, bien sûr, c'est normal. Mais moi, j'aime bien donner des conseils de lecture. Et donc, j'ai deux hashtags qui sont BookTips Tatiana et Favorite Books Tatiana, où j'ai une petite communauté qui aime bien avoir mon avis. Alors, moi, je ne mets que des trucs positifs. Les livres que je n'ai pas aimés, je n'y vais pas. Je trouve que ce n'est pas la peine d'aller descendre un livre... Déjà, les internautes s'en chargent. Ça peut être violent aussi, les retours qu'on a sur Instagram, sur Twitter, sur nos livres, sur ce qu'on poste. Donc, il faut être prêt à ça aussi. Ce n'est pas un monde de bisounours du tout, les réseaux sociaux. Attention, on n'y va pas... si on pense qu'on y va que pour avoir des amis... Sur Twitter, j'ai beaucoup défendu le mariage pour tous. Il y a quelques années, j'ai reçu des messages virulents, homophobes... absolument épouvantable. Bon, il faut être prêt à ça.
C'est à vous dégoûter de la vie en société, à vous encourager à vous enfermer dans un appartement pour écrire des livres.
Alors moi, j'ai quand même besoin du contact. Je suis un auteur qui aime bien aller à la rencontre de ses lecteurs. Là, j'ai une tournée libraire, j'en ai 30. Je prie pour que ce virus ne nous empêche pas quand même. Parce que les lecteurs, ils sont au rendez-vous quand même. Qu'ils achètent ou pas votre livre, ils sont là. Ils ont envie de vous voir, ils ont envie de vous entendre parler. Ils sont... ça fait partie... Moi quand j'arrive dans une petite librairie de province en pleine semaine, qui pleut des cordes, et que je me dis toujours, oh là là, oh, est-ce qu'il va y avoir du monde? Et tout d'un coup, vous poussez la porte, vous voyez la mine du libraire réjoui, puis vous voyez tous ces gens qui attendent là, qui ont rendez-vous avec vous, qui ont pris de leur temps pour venir dans cette petite librairie, qui peuvent parfois accueillir jusqu'à 50 personnes qui vous attendent, qui ont rendez-vous avec vous. Ben moi, je trouve que c'est une récompense, c'est mieux que le Goncourt. Hein.
C'est la plus belle des récompenses. Alors, Tatiana, ce podcast s'intitule « Les gens qui lisent sont plus heureux », et c'est un passage obligé pour chaque invité. J'ai envie de savoir si vous êtes d'accord avec ce que j'avance dans le titre.
Mais évidemment, moi, je ne peux pas me passer de livres. J'en lis en général parfois deux en même temps.
Ah, moi aussi, on fait partie de ce club.
Voilà.
Pour mais certains, c'est impossible. Hein.
Un en anglais et un en français, très souvent.
Ah, oui,
je
ne okay.
peux pas choisir. Et je ne peux pas être, par exemple, dans un train, dans un avion, si je n'ai pas de bouquin, c'est une catastrophe. Une catastrophe parce que je n'ai pas envie de passer ma vie sur les réseaux sociaux. Je passe déjà assez de temps dessus, donc je me limite. Et donc, il y a des moments de lecture pour moi extrêmement importants. J'ai un coin lecture chez moi, très cosy, où, d'ailleurs, qui a été photographié sur Instagram par ma fille, qui est une photographe talentueuse. Donc, plein de coussins partout, une très bonne lumière, mes lunettes bleues, qu'on m'a offertes, d'ailleurs, mes lunettes bleues de lecture. Et je m'installe et je lis. J'essaye de lire au moins une heure par jour, au moins. Au moins.
On ne peut pas vous embêter pendant cette heure spécifique ?
Alors, c'est vrai que je préfère qu'on m'embête quand je lis que quand j'écris. Parce que là, c'est impossible pour moi. Il y a beaucoup d'écrivains qui arrivent à écrire dans des cafés, des trains, comme mon ami David Fuenquinos. Je l'ai souvent vu écrire dans des trains. Je ne sais pas comment il fait. Moi, je ne peux pas. J'ai besoin d'être chez moi, porte fermée, silence, pas de téléphone. Et j'écris sur un ordinateur où je désamorce le Wi-Fi pour ne pas avoir les notifications.
Bien sûr, bien sûr.
Genre, vous avez reçu un mail, vous avez reçu un SMS, un truc. Tout ça, c'est fini. Silence, comme une espèce de bonne sœur dans un cloître. C'est moi.
C'est
sœur Tatiana. Amen.
Tu peux lire des choses et des histoires très sombres. Hein,
ah oui, bien sûr. Mais moi, vous savez, j'aime tout lire.
Ouais.
J'ai un peu de mal avec les feel-good books. J'ai rien contre. Mais j'aime bien les livres qui racontent une certaine résilience et qui vont dans une certaine noirceur. Mais ça, c'est la faute de Daphné du Maurier,
oui.
que j'ai commencé à lire dès l'âge de 10-12 ans. Et en fait, elle aimait aller là où les gens n'aiment pas qu'on aille. C'est-à-dire qu'elle prend une torche, elle le braque sur tous ces endroits très sombres où on cache des secrets. Moi, c'est là où j'aime aller. Mais pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, je suis un clown. Qui fait des blagues au téléphone, des grimaces.
Et qui dit what the fuck tout le temps.
Et qui dit what the fuck, et putain.
Tatiana, qu'est-ce qu'on dit aux gens qui n'aiment pas lire? Quand vous en rencontrez, vous leur dites quoi? Parce qu'il y a des gens qui s'en, peut-être pas qui s'en vantent, mais qui vous disent, moi j'ai pas le temps de lire des livres.
Alors c'est vrai que quand on dit ça à un écrivain, je pense qu'il y a une certaine provocation.
Oui.
Donc moi j'aime bien la provocation. Donc je les regarde avec un grand sourire. Parce que ça veut dire que des gens qui ne lisent pas ne me lisent pas non plus. Et j'essaie de leur faire comprendre, toujours avec humour, hein, ça c'est mon côté british, que peut-être qu'ils passent à côté de beaucoup de choses. Et la plus belle des récompenses, c'est quand j'ai conseillé un livre, pas forcément les miens, quand j'ai conseillé un livre à quelqu'un qui ne lit pas, et je leur dis, écoutez, au moins lisez ça, ou au moins amusez-vous avec ça. Après, peut-être un petit message, un petit coup de fil. Ah ouais, vous avez raison, je vais continuer. Bah, j'ai bien aimé, ça m'a plu, je vais continuer.
On termine par un conseil de lecture, Tatiana. Est-ce qu'il y a un livre en ce moment que vous lisez, que vous venez de terminer, qui vous...
Alors moi, j'ai beaucoup aimé, alors je suis une grande fan de Gaël Nohant, déjà. J'ai beaucoup aimé son livre, La part des flammes, qui raconte le terrible incendie du bazar de la Charité. J'ai beaucoup aimé son livre sur Robert Desnos, Légende d'un dormeur éveillé. Et donc son dernier roman s'appelle La femme révélée. Il est publié chez Grasset. Et c'est l'épopée d'une femme entre deux époques. Ça se passe dans les années, entre les années 50 et les années 70 à Paris et à Chicago. Et c'est l'histoire d'une photographe américaine qui va devoir faire un choix très difficile de mère au début de sa vie de jeune mère et qui donc fuit à Paris pour des raisons qu'on va comprendre plus tard. Gaëlle Nohant a une plume extraordinaire, elle nous emporte dans son monde à elle, on s'attache à cette femme, on vibre avec elle lors de toutes les terribles émeutes raciales à Chicago dans les années 60, dont je ne connaissais pas grand-chose, même si j'habitais en Amérique à cette époque-là, mais j'avais que 5-6 ans, donc je m'en souviens pas très bien. Et donc, en fait, Gaëlle Nohant, elle a ce don. Vous pouvez commencer son livre, vous vous évadez avec elle. Il y a une plume, il y a une voix. Et moi, j'aime bien faire de la pub pour ma communauté. Donc, ils doivent savoir que je l'ai déjà beaucoup défendu sur les réseaux. D'ailleurs, dès que je vois un tweet passé sur Gaël Nohant.
Vous retweetez.
Je retweet.
Bon, bah, j'espère que les gens qui auront écouté cet épisode vont lire et retweeter tous ceux sur le vôtre, Les Fleurs de l'Ombre, chez Robert Laffont. Bah, merci beaucoup, Tatiana,
merci
pour ce petit moment autour de la lecture. C'était très sympa.
Merci beaucoup.
Merci, à
bye
bientôt.
Bye bye.
C'est la fin de cet épisode. Je vous invite à le liker, à le partager et tout simplement à en parler avec d'autres passionnés de lecture comme vous. Tous les épisodes précédents sont disponibles sur les plateformes de téléchargement et sur la page spéciale qui lui est consacrée sur lci.fr. Les gens qui lisent sont plus heureux. C'est aussi un compte Instagram où vous pouvez retrouver les coulisses de chaque épisode. Je vous dis à bientôt et bonne lecture.